Pèlerinage d'amour de Georges Duruy. Quand ils s'étaient aimés, leurs âges réunis ne faisaient pas 40 ans. Lui venait de remporter le grand prix de sculpture, elle était institutrice dans une famille riche. Olivier décida Mariette à le suivre en Italie. Là, pendant 3 années qui passèrent, rapides comme des heures, ils vécurent ensemble, camarades et amants, d'une douce vie de travail et d'insouciante gaieté. Puis ils se quittèrent, parce que le sort commun des amours de jeunesse, ces belles amours qui embaument le matin de la vie, est d'être soumise à la même loi de prompte caducité que subissent les fleurs les plus odorantes et les fruits les plus savoureux. Ils se quittèrent, sans récrimination ni paroles amères, juste au moment où ils sentirent qu'elle s'épuisait leur tendresse, étant de ceux qui pensent qu'au lieu de vider le flacon rempli d'une essence délicieuse et de le jeter ensuite, il convient de garder précieusement la dernière goutte afin de retrouver plus tard quelque chose du parfum qui vous semblait si doux jadis. Olivier devint célèbre, riche. Il fut envié par les hommes, aimé par les femmes, recueillant ainsi sous des formes diverses mais également flatteuses l'hommage particulier dont chaque sexe consacre à sa manière les réputations naissantes. Mariette eut des aventures où l'entraîna l'instinct nomade de son cœur, peu propre aux haltes prolongées dans un même sentiment. Beaucoup l'aimèrent. Un d'eux l'épousa, qui, voulant faire tout à fait bien les choses, la laissa veuve, avec de la fortune et un titre de marquise. 15 ans s'étaient écoulés, et ils ne s'étaient jamais revus depuis leur séparation, lorsque le hasard, dont l'ironie se plaît à ces rapprochements, les remit en présence l'un de l'autre dans un bal. « Quelle est cette jolie femme ?» se dit Olivier, qui ne retrouvait plus, sous les pierreries dont elle était maintenant couverte, sa petite amie d'autrefois, celle qui, dans ce temps-là, n'avait jamais porté de parure plus riche qu'un camélia blanc dans ses cheveux, avec un bouquet de roses au corsage. « Quel est ce beau garçon ?» pensait de son côté Mariette, qui se rappela vaguement avoir vu quelque part, mais noire et non pas blanchissante, une barbe en pointe et des moustaches retroussées qui ressemblaient à celle-là. Leurs regards s'étant rencontrés, ils se reconnurent, et d'un bout à l'autre du salon, par-dessus le flot d'indifférents qui les séparait, Mariette et Olivier se sourirent doucement, comme au temps où, n'ayant qu'une seule chose à se dire, toujours la même, ils restaient longtemps sans se parler, la main dans la main. Quelque chose d'humide baigna soudain leurs paupières, tandis que passait devant eux, comme un éclair, le souvenir rapide des beaux jours d'autrefois. Deux pensées tendres se croisèrent, invisibles messagères du cœur, chargées de bienvenue, puis, comme si quelque mystérieux aimant eût encore attiré l'un vers l'autre, ces deux êtres dont la chair et dont l'âme s'étaient jadis confondues dans des baisers sans nombre, au moment même où l'artiste se dirigeait vers elle, la marquise se leva pour aller au-devant de lui. « C'est donc vous ?» dit Mariette en lui tendant la main. « Quelle rencontre !» Ils allèrent s'asseoir au fond d'un petit salon désert, cherchant d'instinct, par habitude ancienne d'amoureux, la solitude et le silence. Une grosse lampe, coiffée d'un transparent de papier rose, éclairait discrètement ce boudoir, où les accords bruyants de la valse, tamisés par les portières de velours et assourdis par les tapis d'Orient, n'arrivaient que comme une mélodie lointaine, qui berçait doucement l'intimité de leur causerie et inclinait leurs âmes aux tendres épanchements. Ils se dirent la joie qu'ils sentaient de se revoir. Quelle émotion les avait soudain envahis quand ils s'étaient reconnus, comment ils avaient vécu depuis 15 ans. Dédaignant de mentir, ils ne se cachaient rien, ni de leur situation présente, ni des infidélités qu'ils avaient faites tous deux au souvenir de leur liaison. Mais sous le badinage léger dont ils enveloppaient ces confidences, perçait comme un regret de n'être pas restés l'un à l'autre, comme un aveu timide de la faute commise, en allant chercher si loin le bonheur qu'ils avaient sous la main. Au moment où l'orchestre attaquait un de ces airs tziganes, dont la musique capiteuse grise comme le parfum d'une fleur des pays chauds, Mariette vit que son ami posait sur elle un regard profond où passait la flamme, tout à coup ranimée, des désirs d'autrefois. Et ce regard, qui l'enveloppait toute d'un fluide de caresses, ce regard impérieux et suppliant, fit palpiter sa gorge et monter à ses joues une rougeur de vierge. Il se pencha vers elle et d'une voix qui tremblait un peu, murmura quelques mots à son oreille. « Vous voulez donc, dit-elle, ajouter un chapitre à notre roman, soit, mais à une condition, c'est que nous le reprendrons à la page où nous l'avons laissé. Je pars demain pour Rome. Venez m'y rejoindre dans 3 jours. Je ne veux être à vous de nouveau mon bel Olivier, qu'après que nous aurons fait ensemble ce pèlerinage d'amour. La nuit est claire et froide. Elle a, pour paraître plus belle, sorti tous les joyaux de son écrin céleste. La voie lactée se déploie là-haut comme une rivière d'étoiles. Des astres solitaires jettent çà et là leurs feux multicolores et semblent des pierres précieuses, rubis, émeraudes et diamants, semés sur un grand manteau noir. Aux vitres du wagon, le givre dessine en arabesque ses fines broderies. Par moments, on entrevoit dans la campagne le squelette de quelque grand arbre, ployant sous son suaire de neige. Et cependant, que le train file vers Modane, Olivier, les yeux mi-clos, songe à son ami qui l'attend là-bas, dans le pays où le ciel est toujours bleu, et dont les tièdes hivers ont la douceur de nos printemps. Il la reverra donc enfin, cette chère Italie. Et c'est pour cet homme, là de la vie fiévreuse de Paris, des luttes qu'il y faut soutenir, des jalousies qu'on y excite, des amours banales qu'on y rencontre. C'est pour Olivier, à l'idée qu'il va se retremper dans l'art, dans la nature, dans l'amour vrai, une sensation délicieuse de détente et de quiétude, quelque chose comme une paix divine qui déjà le pénètre et lui donne un avant-goût du bonheur qu'il est venu chercher. Turin, Florence, Orvieto. La campagne est verte encore et fleurie. La brise apporte des parfums légers. L'air est plus transparent. La vigne s'enroule aux branches des ormeaux et tresse d'un arbre à l'autre les guirlandes empourprées qui charmaient les yeux de Virgile. Olivier songe toujours à Mariette. C'est qu'on ne rencontre pas, encore jeune et toujours belle, une maîtresse jadis aimée, sans acquérir bientôt la preuve que les sens ont, eux aussi, leur mémoire, plus tenace quelquefois et plus prompte à s'éveiller que la mémoire du cœur. Le souvenir des caresses anciennes, un souvenir aigu, dont on ne saurait dire s'il est une souffrance ou bien une volupté, entre dans notre chair comme une flèche et ranime soudain l'impérieuse envie de connaître encore la suavité des baisers qu'on croyait à jamais oubliés. C'est pour cela qu'Olivier avait senti, en revoyant la marquise, ce frisson de tout l'être qui est à l'avant-coureur des renouveaux de passion. C'est pour cela qu'il arrivait au rendez-vous doublement épris, puisqu'aussi bien il y avait deux femmes en elle, la maîtresse qu'il allait retrouver et celle qu'il allait découvrir. Comme il descendait de wagon à Rome, le matin, sur le quai de la gare, il aperçut son amie qui l'attendait. Elle portait une robe brune très simple. Elle était coiffée d'un chapeau à bord étroit, flanqué de deux ailes grises de ramier, pareil à celui qu'Olivier se souvint d'avoir vu sur sa tête quand ils étaient partis ensemble pour l'Italie, et qui donnait à la fière marquise, superbement épanouie dans l'opulente beauté de la 35e année, quelque chose de l'air modeste qu'avait la petite institutrice d'autrefois. « Ah !» dit Olivier, ma chère Mariette, « comme je vous retrouve toutes. C'est hier, n'est-ce pas ?» que nous nous sommes quittés. « Bien, » dit-elle avec un sourire d'une ineffable tendresse, « je t'emmène avec moi. » Ils prirent une voiture qui les déposa, via San Claudio, à la porte d'une maison que l'artiste reconnut aussitôt. Ils montèrent au troisième, elle ouvrit une porte en disant « nous voici chez nous ». C'était leur chambre d'autrefois, tous les meubles étaient à la même place, la table avec son tapis rouge taché par un encrier qu'il avait renversé, le fauteuil où elle venait se blottir comme un enfant câlin sur ses genoux, le grand lit avec ses rideaux à ramages. Il promena un regard attendri sur ce mobilier, banal pour d'autres, mais non pour lui, car il n'était pas un objet qui ne gardât à ses yeux quelque chose de la poésie de leurs amours. Il vit qu'elle avait mis, la chair retrouvée, des fleurs partout, camélias blancs et rouges, roses pourpres, violettes de Parme. Ces violettes qu'ils allaient cueillir ensemble dans les jardins de la Villa Ludovisi et dont elle aimait à glisser quelques-unes sous son corsage, sachant que son amant prenait plaisir à respirer le soir sa gorge comme un bouquet. « Ah, cher, cher, » dit-il, « comme nous allons être heureux. » Et il voulut la prendre dans ses bras, mais elle se déroba prestement à cette étreinte et répondit avec une grâce mutine « Nenni, mon bel Olivier, ceci n'est que la première station de notre pèlerinage. Je vous donne cette nuit, donnez-moi en échange cette journée. » Et comme il implorait encore, « Ah, » dit-elle, « comme vous voilà bien tous, vous autres hommes, toujours il faudrait que nous cédions sur l'heure à l'impérieuse exigence de vos désirs. Vous ne comprenez donc pas ce qu'il y a d'exquis dans ce raffinement, qui fait que l'on diffère son bonheur afin de le mieux savourer. Voulez-vous que je vous dise, vous êtes des gourmands, non des gourmets d'amour. Ah, mon ami, que vous me semblez versé dans la philosophie de cette matière. » Sur ce, ils quittèrent gaiement la chambre. Mariette proposa d'aller au bord du Tibre, déjeuner dans une trattoria, où ils aimaient autrefois venir manger des spaghettis, arrosés de vin blanc d'Orvieto. Olivier trouva l'idée charmante, et ils allèrent s'asseoir tous les deux en plein air, sur la terrasse de l'Osteria, à l'ombre d'un énorme oranger, devant une table où ils retrouvèrent, gravées dans le bois à la pointe d'un couteau, leurs initiales entrelacées avec la date de l'année. « Tiens, » dit Olivier, « regarde, 17 ans déjà. Te rappelles-tu comme nous nous sommes aimés ce jour-là ?»«
Oui, » dit Mariette, « tu venais de finir ta Diane. Nous avons bu à ton succès,
mais de l'eau claire, de l'acqua marcia dans des verres à champagne, car il ne restait plus que 3 francs pour finir le mois. Et puis nous sommes allés voir le Moïse. Et puis nous sommes rentrés dans notre petite chambre, si je m'en rappelle. Oh, la délicieuse journée! Quel bon temps c'était, n'est-ce pas ?» Ils restèrent quelques instants silencieux, perdus l'un et l'autre dans une songerie où défilaient lentement, tantôt à demi effacés, comme de vieilles photographies mangées par le soleil, tantôt se détachant en pleine lumière les souvenirs du passé. Au-dessus de leur tête s'arrondissait la grande coupole bleue des ciels d'Italie. Des insectes bourdonnaient parmi les feuillages sombres de l'oranger, dont les fleurs imprégnaient l'air d'une exquise et énervante senteur. À leurs pieds, le Tibre roulait avec un bruit de torrent, ses eaux rapides et limoneuses, qui tournoyaient en gros remous jaunâtres auprès des piles du Ponte Rotto. Sur l'autre rive, ils voyaient la cloaque Maxime, le gracieux temple de Vesta, les vieilles maisons qui plongent leurs pieds dans le fleuve, le Janicule et tous les débris de monuments qui donnent un air de grandeur triste à ce coin de Rome, et le leur avait rendu jadis plus cher que tout autre. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là ? Dit tout à coup Mariette en touchant doucement du doigt le front de son ami. Votre servante a-t-elle eu le malheur de vous déplaire ? Que vous la regardez avec ce mauvais regard ? Il parut hésiter un instant, puis brusquement : Mariette, je voudrais savoir si vous avez aimé quelqu'un plus que moi.
Oh, mon ami, pouvez-vous me demander une pareille chose ? En un pareil endroit, surtout. Dites-le-moi, je vous en supplie, je veux le savoir.
Est-ce que je sais seulement si j'en ai aimé d'autres que vous, vilain homme que vous êtes ?
Mais vous me l'avez dit.
Et s'il me plaît maintenant de l'oublier, quel droit avez-vous, je vous prie, de vous en souvenir ?
Poussé par on ne sait quelle curiosité malsaine, qui s'éveille parfois dans les bas-fonds de nos cœurs d'hommes, Olivier insista pour qu'elle répondît à sa question. Quelque chose de plus fort que sa volonté l'obligeait à penser aux amants qu'elle avait eus, et à retrouver sur les lèvres de son ancienne maîtresse la trace non de ses baisers à lui, mais des leurs. Et bien qu'il se fît horreur à lui-même, il ne parvenait pas à dompter l'abominable envie de récapituler les désirs qu'elle avait inspirés et d'apprendre, de sa bouche même, dans quelle mesure elle les avait satisfaits.
« Olivier, Olivier, ce serait odieux si vous n'étiez pas fou en ce moment, » disait Mariette.
Il eut le triste courage de lui répondre que ce n'était point par jalousie qu'il l'interrogeait.
« Ah, c'est ainsi, » dit-elle. « Eh bien, mon cher, puisque cela vous amuse, causons de mes caprices et de vos bonnes fortunes. Cela sera tout à fait délicat. »
Mais alors, un brusque revirement se fit en lui. Il eut honte. Et de l'ignoble instinct dont il n'avait pas su dominer l'impulsion et de la lâcheté qu'il venait de commettre en offensant cette femme qui se donnait généreusement à lui.
« Mariette, pardon. J'étais fou, en effet. Et je sens bien maintenant qu'il y a quelque chose de sacrilège à parler en ce lieu, à cette place, où nous nous sommes aimés d'autres amours que du nôtre. »
Elle lui tendit sa main, qu'il baisa, et ils se mirent à causer de choses et d'autres, théâtre de Paris, musique, roman, sur un ton léger de marivaudage mondain. Mais en même temps, ils s'observaient l'un l'autre avec la perspicacité que leur donnait l'expérience qu'ils avaient acquise, lui de la femme, elle de l'homme. Et ils commençaient à se voir, non pas tels qu'ils s'étaient semblés en se retrouvant, mais tels que la vie les avait faits depuis le temps déjà lointain de leur séparation. Il parut à Mariette que son ami était devenu sceptique, moqueur et blasé, que l'esprit de critique et d'ironie avait tari en lui la source des généreux enthousiasmes. Olivier crut s'apercevoir de son côté que la petite institutrice, depuis sa métamorphose en grande dame, avait perdu de son naturel, qu'elle ne gardait plus cette réserve pudique, ce charme d'innocence et de naïveté qui donnait, jadis, quelque chose de presque virginal et de si touchant à sa jeune maîtresse. Et ce fut une déception pour tous les deux de constater combien les années avaient ôté de ressemblance à l'image idéale qu'ils conservaient l'un de l'autre. Le déjeuner fini, Mariette et Olivier s'allèrent promener par la ville. Ils entrèrent au Vatican et s'étonnèrent de ne plus sentir la religieuse émotion qu'ils éprouvaient au moment de pénétrer dans le sanctuaire de Raphaël et de Michel-Ange. Ils visitèrent la Sixtine, les stanze et les loges. « Eh bien, » dit Mariette en sortant, « tu ne dis rien. »« Que veux-tu que je te dise? Je vais te scandaliser, si je t'avoue que je ne trouve plus tout cela aussi beau. »«
Tiens, » dit-elle, « c'est curieux. J'ai eu la même impression. Vois-tu, mon cher, nous étions des cœurs simples dans ce temps-là, et nous ne le sommes plus. »«
Peut-être bien. » Elle soupira légèrement et ajouta après un silence, « C'est dommage, c'était bon d'admirer. » Et la déception que l'art venait de leur causer, s'ajoutant à celle qu'ils s'étaient déjà infligée à eux-mêmes, le malaise vague dont ils commençaient à souffrir, augmenta. Ils prirent une voiture et se firent conduire sur la Via Appia, à l'heure où le soleil déclinant à l'horizon colore de tons plus chauds le marbre des tombeaux antiques et allonge démesurément l'ombre des aqueducs. Au temps de leurs amours, Olivier venait quelquefois, après une journée de travail, rejoindre Mariette qui l'attendait sur un banc du Pincio, et l'on sortait de la ville. On cherchait à travers champs quelques coins de prairies tapissées d'asphodèles, pour s'asseoir l'un près de l'autre et contempler dans une extase muette ce spectacle, le plus grand, pensait-il, qui pût être au monde. Puis, lorsque le soleil avait disparu, là-bas, du côté de la mer et d'Ostie, il revenait côte à côte, grave, recueilli, pénétré de la souveraine beauté du lieu et de la scène. Olivier récitait en marchant des vers qu'elle se répétait tout bas. Ou bien il parlait des dieux de Rome, qu'il sentait partout présents autour d'eux, du radieux Apollon, dont il venait de voir le char enflammé, de la chaste Diane, dont le croissant mince et pâle commençait de briller au-dessus des monts de la Sabine. Leurs âmes, enivrées par la splendeur des formes et la magie de la couleur, devenaient païennes dans ce milieu tout plein d'antiquité. Et doucement, la main dans la main, les yeux au ciel, où s'allumaient çà et là les étoiles, ils rentraient par la voie bordée de sépulcres, où leurs pas résonnaient sur les grandes pierres qu'avaient foulées, 2000 ans auparavant, les sandales romaines. Or, ce jour-là, quand ils furent arrivés auprès du tombeau de Cecilia Metella, « Ah, mon pauvre Olivier, » dit tout à coup Mariette, « je n'ai pas de chance. Moi qui me promettais tant de plaisir à faire cette promenade, je ne l'aime plus, la campagne romaine, c'est fini. » « Le fait est, » répondit Olivier, « que les environs de Paris sont autrement jolis. » 100 mètres plus loin, ils rencontrèrent un groupe de jeunes gens qui parlaient français. 3 ou 4 belles filles brunes, grandes et droites comme des cariatides, les accompagnaient. C'étaient des pensionnaires de la Villa Médicis, des peintres qui se promenaient avec leurs modèles. Ils riaient, embrassaient les belles filles aux yeux stupides, chantaient des chansons d'atelier, disaient des calembours absurdes. Puis, l'exubérante gaieté de la 20e année s'éteignait brusquement. Les coq-à-l'âne cédaient la place à des réflexions sur l'art. Ils devenaient graves tout à coup et répétaient, en se montrant au loin les collines d'Albano et de Frascati, « Que c'est beau, que c'est beau !» Après quoi, ils se remettaient à rire bruyamment et à échanger des gaudrioles en lutinant leurs compagnes. Mariette et Olivier les suivirent des yeux jusqu'à ce qu'ils eussent disparu au tournant du chemin. Puis, sans rien dire, ils échangèrent un long regard, et ce regard signifiait « Voilà pourtant comme nous étions. Qu'est-il donc de changé en nous ?» La nuit étant arrivée, ils se firent conduire au restaurant qu'on trouve après avoir passé le Ponte Molle, sur la gauche du chemin qui mène au rocher des Nasons. Ils y étaient venus souvent, en bande joyeuse, avec leurs amis, faire de petites fêtes, où l'asti spumante leur mettait au cœur quelque chose de la gaieté des vins de France. Ils dînèrent en tête-à-tête dans un cabinet dont ils reconnurent, fané et vieilli, la tenture de Perse semée de bouquets blancs et roses sur fond bleu. Au dessert, Olivier demanda à Mariette si d'aventure elle se rappelait une chanson d'autrefois, qu'il avait beaucoup aimée. Elle se mit à la lui chanter, mais il leur sembla aussitôt que la gaieté des paroles et de la musique sonnait faux à leurs oreilles. « Tu pleures ?» dit-il, en voyant que de grosses larmes roulaient dans les yeux de son ami. « Ce n'est rien, je pense à ce pauvre Henri. » C'était l'auteur de la chanson, un de leurs meilleurs camarades, mort poitrinaire à 25 ans. « Tu pleures aussi ?» s'écria Mariette à son tour, tandis que les paupières de son amant se gonflaient. « Qu'est-ce que tu as ?»«
Ne fais pas attention, je pense aussi à Henri. » Ils se mentaient l'un à l'autre, car c'était sur eux-mêmes
non sur leur ami disparu, qu'ils pleuraient. Alors ils se levèrent et partirent.
« Rentrons, veux-tu ?» dit Olivier.
Ils parcoururent, sans échanger une parole, la distance qui les séparait de leur chambre, de la chambre pleine de fleurs où ils s'étaient aimés et où ils projetaient, quelques heures auparavant, de s'aimer encore et d'être heureux comme ils l'avaient été. Mais ce fut du Palan, dont on accompagne un mort au cimetière, qu'ils firent cette dernière étape de leur pèlerinage d'amour. Une mélancolie subtile s'était insinuée dans tout leur être. L'effort qu'ils venaient de faire pour ressusciter leur jeunesse et retrouver la fraîcheur de leurs anciennes amours n'aboutissait qu'à un morne, qu'à un universel désenchantement. L'amour, l'art, la nature, eux-mêmes, tout leur avait successivement fourni, pendant cette promenade funeste, des sujets de déconvenue, de regret ou de tristesse. Quand ils furent arrivés à la porte, ils se regardèrent, chacun d'eux espérant trouver, dans les yeux de l'autre, une lueur qui le réconforta. Mais il faisait nuit dans leurs yeux, comme au fond de leurs âmes, et ils restèrent là, immobiles, sentant chaque seconde qui s'écoulait, quelque chose d'infranchissable s'élever entre eux et les séparer à jamais.
« Demain, mon ami, » dit enfin la marquise en lui tendant la main, « je suis lasse. »«
Comme vous voudrez, » répondit-il,
« moi aussi je suis là.
Bonsoir, Mariette. »«
Adieu, Olivier. »
Et ce fut tout.
Le lendemain, Olivier s'éveilla tard. Le garçon de l'hôtel lui remit une lettre, elle était de Mariette et portait « Lorsque vous recevrez ce mot, je serai parti. Nous nous sommes trompés, mon ami, en demandant à notre tendresse d'autrefois quelque chose d'autre ou de meilleur qu'un souvenir. Gardons pieusement cette rose fanée et ne cherchons pas à la faire refleurir. Je ne suis plus la Mariette que vous avez chérie et vous n'êtes plus l'Olivier que j'ai tant aimé. Je vous prends à témoin que nous nous sommes cherchés et que nous ne nous sommes plus retrouvés. Quelque chose nous manque à tous deux, que rien ne remplace, l'ingénuité du cœur et la jeunesse. C'est pourquoi nous avons fait une tentative vaine en essayant d'être heureux de nouveau l'un par l'autre, comme au temps où nous étions naïfs et où nous avions 20 ans. L'amour ne se recommence pas. »
Ainsi s'achève, mélancoliquement, « Pèlerinage d'amour » de Georges Duruy.